En quête de sens, vous est présenté par la Mutuelle Saint-Martin. Mutuelle santé efficace et fraternelle depuis 75 ans. En quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
Qu'est-ce qu'un saint ? Est-ce une victime, un héros, un modèle de perfection ou rien de tout ça ? Garder le cœur pur de tout ce qui souille l'amour, c'est cela la sainteté. C'est en tout cas ce qu'affirme le pape François. Tout simplement, ajoutons que nous ne devenons pas saints en faisant la fête. Il faut, dit-il, un cœur joyeux et ouvert à l'espérance. Mais Dieu sème, ajoute-t-il encore, en chacun la sainteté. Il ne l'impose pas, le Seigneur laissant à chacun la liberté de suivre ses bonnes inspirations et de se mettre au service des autres. Ceci étant dit, eh bien, question du jour, à quoi faut-il renoncer tout simplement pour être un saint ? Pourquoi pas se poser la question aujourd'hui ? Dans cette émission Quête de sens avec mes trois invités, Bénédicte de Lélis, bonjour Bénédicte. Un peu la couleur de la sainteté, je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça. Si, c'est peut-être parce que pendant la... c'est la couleur, le violet, c'est le vendredi saint.
C'est pas mal, c'est une couleur de pénitence.
C'est pas mal.
Pour renoncer, pour un thème sur le renoncement. Mais c'était un hasard, mais c'est pas mal.
C'est incroyable. Bref, moi je suis en rose, vous voyez, je suis en mode joyeux.
C'est la joie de la sainteté.
Voilà, c'est le Dieu. Exactement. Diplômée, alors vous êtes, bon, on n'en parle plus de l'école du Louvre, hein. Maintenant vous êtes maman, vous êtes écrivaine, vous chroniquez régulièrement pour Famille Chrétienne, et puis vous êtes surtout, l'autrice, la célèbre autrice de cette collection, Graines de Saint, aux éditions Même, qui était un régal pour les petits.
À partir et pour les grands.
Et pour les grands, je vous raconte pas, parce qu'on en apprend des choses, on révise toute nos connaissances de dessins qu'on connaît tellement mal en fait, Et voilà, donc il y a là, les cinq sens sont quasiment mobilisés. En tout cas, voilà, il y a un CD qui est fourni à l'intérieur de chaque ouvrage. On est d'accord, Bénédicte, hein ?
Exactement.
Et le texte qui est extrêmement bien écrit. Je le précise, parce que c'est pas toujours le cas, n'est-ce pas ?
Merci.
Il est de qui le texte ? Il est de vous exclusivement à chaque fois ?
Oui.
Tous les textes, hein ?
Oui.
Vous avez retravaillé, vous avez replongé.
Je lis beaucoup les saints. Et puis j'essaie de faire un texte qui colle le plus à leur caractère. Normalement, les textes ne ressemblent pas parce qu'ils sont censés ressembler aux saints.
Ouais.
Donc, à leur caractère, leur même, leur façon de s'exprimer. Par exemple, Charles de Foucault qui vient de sortir, normalement, il a un langage un peu plus ancien, avec ce côté de Charles de s'exprimer de 1900.
Ouais.
Donc, j'essaie de coller vraiment en faisant en sorte que ce soit accessible. Pour les enfants d'aujourd'hui.
Pour le Saint-François, voilà, qui est à la côte, à la maison. Voilà, ma fille. Je pense qu'il y a d'autres enfants, d'ailleurs, qui apprécient beaucoup vos différents graines de saint. En tout cas, merci d'être là, Bénédicte.
Merci, Marie.
C'est raccord avec le thème du jour, évidemment. Faut-il renoncer ? À quoi faut-il renoncer pour être un saint ? Nous sommes également en compagnie de Paul Amblat. Bonjour, Paul.
Bonjour.
La sainteté incarnée.
Mais bien sûr, quel beau programme.
Bah oui, à travers l'histoire de l'art, n'est-ce pas ? Un hommage à la sainteté, l'histoire de l'art. Et l'art dans les églises romanes, c'était déjà, on racontait, et dans les églises tout court, pardon, pourquoi je parle de l'art roman, mais dans les églises gothiques, ô combien également, où on racontait et on se nourrissait de cela. Aujourd'hui, on n'y connaît plus rien, donc on regarde, et, ah, c'est joli, puis on passe à autre chose, quoi.
Dommage.
Et dommage. Mais heureusement, Paul Amblard est là, et, et Notre-Dame de Paris, évidemment, le symbole des pierres, toujours à découvrir, qui est un vrai régal, chez Salvatore, Paul Amblard. Vous qui vous passionnez justement pour les petits détails que l'on ne voit pas forcément quand on...
Ou les grands détails. En tout cas, je remercie beaucoup tous les témoignages des lecteurs que j'ai reçus.
M'étonne pas.
Pour vraiment décrypter une église, un sanctuaire, des choses qu'on ne connaît plus et qui sont bien dommages parce qu'on a construit ces lieux pour ça, pour ce sens sacré qu'on a oublié. J'essaye de raconter.
Chaque détail comptait à l'époque. Hein. La qualité de la pierre jusqu'à l'orientation. Bref, tout comptait. Merci d'être à la Paul. Et puis nous sommes enfin en compagnie de Marlène, prénom Marlène. Bonjour Marlène, comment
allez-vous ? Ça va bien et vous, Marie ?
Quand je vous vois. Qu'est-ce qu'on dit de vous ? On peut parler de quoi ? Du spectacle, hein. Toujours en tournée dans toute la France.
Découvre-toi.
Et puis, bien sûr, bonne nouvelle, hein. Toujours à découvrir sur Catéo. Alors, j'ai un petit peu cherché... J'ai pas trouvé sur la sainteté précisément.
Il y en a un qui est...
Non,
il y en a plusieurs.
Non, en fait, il y en a plusieurs. Il y en a pas un qui parle vraiment dans le titre où il y a le mot sainteté, comment devenir un saint, où il y a porter du fruit, il y a beaucoup de choses, mais Il n'y a pas forcément...
Bonne nouvelle, je me suis pris une porte, parce que je parle de la porte d'à côté, des saints de la porte d'à côté du pape François. Et puis, il y a deux épisodes spéciaux sur la sainteté, où c'est une espèce de jeu, où on apprend un peu qui sont les saints, ce qu'ils ont fait. Et c'est un peu un jeu TV à l'intérieur de la série.
Eh bien, écoutez, rien que cela, en tout cas, toujours à découvrir. Et alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a été dit il y a peu de temps, je crois, chez nos confrères de Famille Chrétienne, par... Un théologien, je crois, assez jeune, hein, qui disait arrêtons de représenter l'Église par toujours le modèle des saints. Et il en avait ras-le-bol des héros et des victimes. Hein, voilà, il disait un saint, c'est pas un héros, c'est pas une victime. Alors, a-t-il raison, a-t-il tort? Qui veut répondre, Bénédicte, vous qui êtes connue, une spéciale? Oh, bah, elle passe le micro à Paul.
Elle lève la main.
Oui, en fait, quand on voit l'histoire des saints,
ouais,
on se rend compte que c'est pas un chemin comme ça qui leur est donné d'emblée. C'est un chemin de progression, c'est un chemin d'effort, c'est un chemin de souffrance, des fois, et souvent. Et c'est un chemin de grâce aussi. Mais je veux dire par là, on n'est pas saint, on n'est pas une statue d'emblée. Et d'ailleurs, il ne faut pas devenir une statue, parce qu'une statue, ça ne vit pas. Le saint, il est plein de vie, et il est sur le chemin de la vie. Et de contradictions au départ. Il n'y a pas un saint qui n'a pas eu des moments d'ombre, parce que de toute façon, pour montrer la lumière, il faut aussi le rapport de l'ombre. Donc un saint François, par exemple, c'est un joyeux fêtard.
Ouais.
Un Charles de Foucault, dont on parlait tout à l'heure, il a commencé en étant... plutôt un joyeux leron.
Ouais.
Mais c'est normal, il y a un cheminement à faire, et c'est ça la sainteté. C'est, d'ailleurs, le titre de l'émission, c'est « À quoi faut-il renoncer ?» Donc on voit bien que c'est un chemin qui n'est pas évident, qui ne s'adresse pas à tout le monde. Si, ça s'adresse à tout le monde, mais il y en a qui l'expriment d'une façon... beaucoup plus absolue, beaucoup plus transcendante que d'autres, parce qu'ils reçoivent, ils se font le réceptacle de l'esprit. Donc ça s'adresse à tout le monde. Et un saint n'est pas un héros d'emblée. Il devient héroïque.
Héroïque, hein. D'accord.
Mais oui, parce que c'est un héros du quotidien.
Ouais.
Parce qu'on est tous soumis à des choses difficiles, ou à des petits plaisirs, ou à des petits conforts de vie. Et le saint ne choisit jamais le confort. Il choisit d'aller plus loin, de se laisser totalement habiter.
Comment voulez-vous qu'on devienne saint aujourd'hui alors qu'on vit dans le confort? Parce qu'à l'époque de saint François... Alors, il y avait certainement un certain confort pour les riches. Voilà. Il avait l'air d'avoir une vie assez cool au départ, François... au début.
Comme Charles, d'ailleurs.
Ils
viennent de familles
assez Charles,
aisées.
Hein. Oui. En effet.
Comme quoi le Seigneur appelle toute catégorie de personnes.
Ouais.
Moi, ce qui me frappe en vous entendant,
allez-y,
c'est peut-être le point commun de tous ces gens, c'est quand même d'avoir croisé le regard de Jésus, et que c'est ce regard qui est la lumière de leur existence. Et c'est peut-être l'orientation de tous ces saints dans leur immense variété, d'avoir croisé à un moment donné de leur vie, à telle ou telle occasion, différente pour chacun, le regard de Jésus, et de se dire « il me regarde moi, il m'appelle moi ». Et c'est cet appel « suis-moi » qui retentit, à mon avis, comme la lumière de chaque saint.
Mmh.
Et cet appel « suis-moi » qui a retenti peut-être pour chacun de nous autour de ce plateau, et qui fait qu'on s'est aussi mis en route à la suite de Jésus.
Faut-il renoncer? Et on est obligé de renoncer pour devenir saint, Marlène? Évidemment, oui.
Oui.
Renoncer à quoi?
Moi, je dirais même, je vais expliquer cette phrase, mais je dirais même qu'il faudrait renoncer à vouloir être saint pour être un saint.
Comment ça?
Parce qu'il y a un risque de se focaliser sur une étiquette ou une espèce de trophée qu'on peut tendre, parce qu'on tamponne comme ça des exemples qu'il faudrait suivre à la lettre. Et on peut tomber dans le piège de vouloir les photocopier. Comme dit Carlo, on est tous comme des originaux beaucoup meurent comme des photocopies, donc essayons de ne pas tomber dans ce piège-là, et de se faire tout un programme où on va essayer de cocher les cases du saint parfait, et du coup on va en oublier le cœur de ce qu'est vraiment la sainteté, qui est une union avec Dieu et un désir d'union avec Dieu. Et la sainteté en soi, c'est un fruit dont on ne sera même pas au courant de notre vivant. ou très peu, il y en a parfois qui savent, par grâce, parce qu'ils ont suffisamment d'humilité pour que Dieu leur dise, voilà pour qu'ils sachent qu'au ciel, ils pourront faire du bien sur la terre, comme la pièce qui sait d'avance, d'autres qui disent « priez-moi ». J'intercéderai pour vous qui ont cette grâce-là, mais la sainteté, ce sont les autres qui diront si on a été saint ou pas, et pas de notre vivant.
Je suis très touchée par ce que tu dis, parce que je pense qu'en effet, on peut devenir obsédé par soi-même, en fait, en voulant devenir des saints pour être des saints.
Et d'être dans le scrupule.
Et finalement, on est surtout dans se construire un moi qui nous plaît, qui est un peu resplendissant. Ouais. Et en fait, peut-être que dans l'exemple des saints dont on a parlé, François d'Assise notamment, il y a cette période de sa vie tellement douloureuse où il a l'impression que toute sa vie est un échec. Son ministère auprès des frères, c'est tout est foiré. Et il dit « je suis comme une écorce sèche dans un désert ». Charles Foucault a ça aussi. Il y a un moment, quand il est malade au fond du désert, il dit « j'ai baptisé qu'une seule femme vieille et j'ai jamais converti personne
».
Et il a un espèce de... d'épreuves de se sentir d'être nul, et en fait c'est là où ils renoncent vraiment à eux-mêmes et où ils acceptent d'être cette œuvre que Dieu a faite dans les mains de Dieu, comme un vase bien doux pour être façonné par les mains de Dieu. Mais du coup, j'aime ce que dit Marlène, parce qu'on voit bien qu'il faut renoncer surtout à soi-même pour devenir un saint, aimer Jésus, le regarder lui, et puis plus être obnubilé par son moi, et qu'en fait, une quête de la sainteté pourrait être aussi obnubilation du moi.
Oui, c'est un risque en tout cas.
Mais en fait, un saint ne se dit jamais « je vais aller vers la sainteté ». Il n'y a pas de programme, au contraire, c'est quelque chose d'assez vertigineux, le chemin de sainteté, parce que c'est un appel. Et donc, c'est le premier saint, pour moi, c'est Abraham. Abraham, il entend la voix de Dieu et il y va. Il quitte tout. Parce qu'il y a dans « suis-moi », il y a « laisse tout et suis-moi ».
Ça, c'est dur quand même, non?
C'est très dur.
Vous auriez tout laissé, vous?
C'est un arrachement. Mais cet arrachement, il va avec... Vous savez, il y a le côté rigoureux et puis il y a la grâce de l'autre côté. Et ce que l'on reçoit... Le regard de Jésus dont on parlait, François d'Assise, il est foudroyé par ce regard, et on ne peut pas faire autrement. Voilà ce que je sens de ces saints qui vont sur des chemins qui sont limite des fois de la folie, parce que François d'Assise, au départ, on le prend pour un fou.
C'est vrai que souvent on les prend pour des fous d'ailleurs.
Et il est moqué, et il va au-delà.
Ou Bernadette, pense à des millions, mais...
Ou Mère Teresa, quand elle quitte son habit de religieuse, et en fait, on oublie que le sari qu'elle a mis ensuite, c'était comme elle mettait un jean. C'est comme si une religieuse enlève son voile et puis va mettre un jean et un t-shirt. Et elle disait, ce qui me coûte le plus, c'est le regard des prêtres, ils vont penser que je suis folle. Et Jésus lui demandait ça. J'aime bien ce que vous dites, Paul, mais je trouve qu'on voit bien qu'il y a un espèce d'élan du début. Et pour tous les saints, il y a un énorme élan du début. Et puis en même temps, il y a la persévérance. Il va falloir qu'on se mette en route. Et puis une fois l'élan du début, il va falloir tenir bon dans les années. Celui qui recevra la couronne, c'est celui qui aura persévéré jusqu'à la fin. Et on voit ça quand même dans la vie des saints. Alors pas trop dans la vie de Carlo. D'ailleurs, moi je suis toujours un peu jalouse. Je trouve ça quand même un peu facile, 15 ans, youpla. En trois jours, ça va. Mais je trouve que heureusement qu'il est là dans l'église. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas... Non, mais il est magnifique, Carlo. Mais je trouve que heureusement qu'on a des saints âgés qui nous montrent ce que c'est que de persévérer dans une vocation toute la vie.
Et puis il y a les prophètes aussi qui nous aident à ça.
Prophètes qui hurlent dans le désert.
Ils n'ont pas avant.
Exactement. Mais bien sûr que Carlo a sa mesure, et heureusement qu'il est là pour les jeunes. Mais je trouve qu'il y a quand même besoin d'une épaisseur humaine, de cette persévérance qui se dit dans des actes répétitifs et où on ne voit aucun fruit, mais où on tient bon en tenant la main du Christ.
C'est ce qu'il y a de les amis, de persévérer de toute façon dans l'effort. On est d'accord, que ce soit en sport ou dans la vie.
Moi, je ne me prononce pas.
Moi non plus.
Votre vie est un sport, Bénédicte.
Mais juste ma vie.
Mais c'est vrai que même Saint-Augustin, en fait, on ne les compte plus, effectivement, ceux qui ont bien commencé au sens festif du terme. Et puis tout à coup, paf, la douche froide. Et alors après, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est à quoi ont-ils, à quoi faut-il renoncer? À tout, faut tout quitter. Je trouve ça impensable, pardon.
Ça dépend de ce à quoi on renonce. Et puis surtout, quand le Christ appelle, c'est pour une plénitude. Donc ce qu'on quitte, en fait, n'a plus de poids par rapport à ce qu'on gagne.
Donc ça veut dire qu'on est heureux déjà maintenant?
Normalement, oui. Enfin, il y a de la joie dans l'appel.
Oh, perplexe.
Ça ne veut pas dire qu'il y a de la joie à H24. Mais il y a quand même, normalement, au départ, il y a une joie de l'appel et une promesse, une espérance, une grâce qui est donnée aussi pour pouvoir suivre le Christ. C'est un renoncement qui doit se faire dans la joie. Si c'est un renoncement qui n'est que dans la douleur, et pas un peu de paix, c'est peut-être, disons, dans le discernement.
Il y a eu une phase comme ça dans l'Église, hein, avec des martyrs qui étaient... Enfin, on les représentait en tout cas comme cela.
Oui.
Voilà, je ne sais pas ce qu'il faut en penser, Paul Ambert.
Martyr est encore un autre cas.
Un autre cas, ouais.
Martyr, c'est différent.
Ouais. Pourquoi
c'est différent, c'est le chrétien qui se sacrifie. D'ailleurs, dans sacrifice, il y a le mot sacré. Et le saint se sacrifie aussi, mais là, c'est sur le long terme. Mmh. C'est-à-dire, ça me parle beaucoup, ce que vous dites, parce que le saint, ça ne va pas être que lumineux, son chemin. Mmh. Et c'est ça qui est très beau, c'est cette transcendance, c'est ce choix. Je mets devant toi la mort et la vie. Choisis la vie. Tu peux choisir la vie.
Il y a
le choix de cette vie à faire. Et Saint Jean de la Croix, il a eu des moments, mais de ténèbres. Et pourtant, de nuit, il la connaît, la source. Il sait qu'elle est là. Et c'est un chemin à la fois de sondeur et de ténèbres. Et cette constance des saints, c'est ce qui fait leur sainteté. C'est de toute façon de savoir, il y avait Thérèse de Lisieux qui reprenait la phrase de Jean de la Croix, disant « Je suis sans appui et pourtant appuyée ».
C'est-à-dire, on a... cette phrase.
Mais oui, parce que...
Je suis sans appui et pourtant appuyée.
Et oui, parce qu'on a...
C'est-à-dire épaulée, c'est ça que ça veut dire appuyée.
Mais parce qu'on sait que, le monde spirituel est là, qu'il est là pour nous aider, que on traverse le regard de Jésus par une icône, par un tableau, par un sentiment intérieur, et on est tout à fait transformé. Et après, il y a une constance à faire sur ce chemin-là qui fait ce chemin de sainteté.
Et justement, petit hommage à Sainte Thérèse, si vous le permettez, mesdames, n'est-ce pas, Bénédicte, Paul Amblard et prénom Marlène avant le temps du ciel. Hommage évidemment à Sainte Thérèse de Natacha Saint-Pierre. À tout de suite.
En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
Avant le temps du ciel, il y a les instants. Ces morceaux d'essentiel où dorment nos sentiments. Et puis nos fleurs d'amour qui poussent au bord des cœurs. Mais qu'on ne voit pas toujours, sans doute parce qu'on a peur. Le ciel est dans nos âmes et nos âmes sont à lui. C'est en nous qu'il grandit quand on reçoit la vie. Sacrifice avant le temps du ciel pour chaque âme perdue. Alors je serai là s'il faut des cicatrices avant le temps du ciel pour chaque âme rendue. Qu'on les prenne sur moi. On croit ne servir à rien. Pas assez donné, puisqu'on n'est pas grand chose, on craint de se tromper. Quand on lui tient la main, non, on n'est jamais seul. Que les peines se reposent et non plus ce qu'elles veulent. Aider à chaque instant parce qu'il est le premier. Aimer à chaque instant, le ciel n'est pas pressé. S'il faut un sacrifice avant le temps du ciel pour chaque âme perdue, alors je serai là. S'il faut des cicatrices avant le temps du ciel pour chaque être rendu, qu'on les prenne sur moi. Thank you.
On parle de sainteté aujourd'hui dans Quête de sens, pourquoi pas? Et bien voilà, à quoi faut-il renoncer pour être un saint? Et bien boum, la question est posée à mes trois invités du jour, Bénédicte Delélis qui enseigne la théologie au Collège des Bernardins et qui a écrit de nombreux ouvrages consacrés justement aux saints, alors destinés principalement aux enfants, mais aussi aux ados. Alors les graines de saints partent comme des petits pains, ça m'étonne pas du tout Bénédicte, mais on peut aussi parler évidemment de ces petits ouvrages, donc ça s'appelle Les Témoins de l'Invisible, hein, c'est ça, toujours donc les éditions d'Emmanuel, hein, oui. Et qui représente en fait sous forme plus ou moins de BD, c'est ça, hein,
si non, je me...
non, c'est pas ça.
C'est... Alors c'est sous la forme de roman, mais c'est
de
pas
roman.
Du tout romancé,
d'accord.
C'est tout est vrai, mais c'est avec un ton. Parce qu'en effet, un ado, c'est plutôt pour les ados.
Et puis un enfant, quoi.
Un ado n'a pas très envie d'avoir qu'en 1900 machin, il s'est passé ça. Du coup, le ton est plutôt pour emporter le jeune dans l'histoire.
Ouais.
Sans être encombré par les biographies d'adultes qui sont quand même souvent assez ennuyeuses
c'est
à lire.
C'est à partir de 12 ans à peu près,
oui,
11-12
voilà,
ans.
Exactement.
Ça. Oui. Donc on peut citer quelques saints passés au crible.
Claire de Castelbajac.
Claire de Castelbajac, Carlo.
Thérèse de l'Enfant Jésus, ouais. Carlo Acutis et Mère Teresa qui est mon dernier sorti dans cette collection.
Voilà, le petit dernier. Oui. Est-ce que j'ai tout dit à peu près? Oui.
Oui, oui, c'est parfait.
Ensuite, Paul Amblard est historienne de l'art spécialisée dans l'iconographie du Moyen-Âge, pardonnez-moi, et la symbolique chrétienne. On peut mentionner là, pour le coup, le petit dernier ouvrage qui s'intitule « Le symbole des pierres », en parlant de Notre-Dame de Paris chez Salvatore. Et puis aussi, on peut aussi mentionner, tant qu'on y est, le Salon du Livre de la Spiritualité, avec, qui est thématisé sur la musique cette année. Ça se passe à l'abbaye de Fontaine-Guérard, dans la vallée de l'Andelle, c'est ça?
Le 1er mai, toute la journée, et on passe une journée exceptionnelle dans un lieu magnifique, dans la vallée de l'Andelle.
Ans, hein. Tous les
oui,
ans.
Oui, c'est une ancienne abbaye cistercienne.
Magnifique.
Qui est ouverte pour nous, pour la journée. Et c'est un lieu très propice. Et voilà, le thème, c'est la musique. Il y aura des petits concerts, il y aura des conférences. Il y a des livres exposés, évidemment.
Et on peut y faire des retraites aussi, dans cette abbaye, ou pas?
Non.
Non,
non, non. Elle est, elle est privée aujourd'hui.
D'accord.
Et justement, c'est un lieu qui nous est ouvert pour la journée.
Wow,
c'est un lieu exceptionnel, oui, du XIIIe siècle.
Waouh, ça c'est toujours un bonheur de découvrir quand on
oui.
En plus, c'est pas très loin de Paris pour nos amis parisiens qui nous écoutent. Nous sommes enfin en compagnie de prénom Marlène, qui est l'auteur de nombreux ouvrages, elle aussi. Alors, on parle du spectacle musical, bien sûr, Découvre-toi, mais pas seulement. Il y a aussi un ouvrage aux éditions de l'Emmanuel, Les Neuf Fruits de l'Esprit Saint, qui ne prend pas une ride et qui est aussi en lien évidemment avec notre émission du jour. Il y a également Thérèse de Lisieux et moi aux éditions Marie de
et
Nazareth.
Vous.
Pourquoi j'ai dit « et moi » Parce que ça me
parle. En fait, c'était le titre au départ et on a opté pour Thérèse de Lisieux et vous. Donc.
Bah ouais, comme ça, voilà. Fumba, voilà,
vous lisez dans les pensées.
Voilà, c'est drôle. Voilà, on ne présente plus, évidemment, votre petite série Bonne Nouvelle à redécouvrir sur YouTube, évidemment. Mesdames, nous voici à nouveau sur notre terrain de la sanctification, en tout cas la voie de la sainteté. On essaye, hein, on explore en tout cas toutes les façons aujourd'hui, en 2025, d'être saint. Alors, bon, on aime ou on n'aime pas Carlo Acutis, mais il y a des tas d'autres. C'est vrai qu'on aime bien aussi se sentir proche. On en avait déjà parlé, il me semble, Bénédicte, hein, dans une autre émission. Il y a des saints tellement différents les uns des autres qui sont aussi là pour nous parler de nous aussi. Hein, de là, il y en a qui nous parlent plus ou moins. Forcément.
Et qui correspondent à des étapes de la vie aussi. On peut dire à une étape de la vie, tel saint a été une lumière pour moi, puis à une autre, c'est un autre saint qui a vécu telle expérience en commun.
Ouais.
Je repensais au titre de cette émission qui est « À quoi doit-on renoncer ?» et je me dis qu'on n'a pas dit ça depuis le début, mais quand même, on doit renoncer au péché, non ?
Oui, tout à fait.
Ouais, il faut quand même y renoncer de manière... peut-être c'est ça le sens de mon chemisier violet. Renoncer au péché de manière...
Elle sort du confessionnal. Renoncer
De manière décidée, déterminée, tenace.
C'est impossible, hein. C'est impossible de tout
faire. À mon avis, c'est même un chemin commun de tous les saints d'avoir voulu. Je découvre en ce moment une sainte incroyable qui s'appelle Sœur Claire Croquette. Vous ne connaissez pas ?
C'est drôle de nom.
Extraordinaire. Donc, il y a un documentaire qui s'appelle Tout ou Rien sur YouTube.
D'accord.
Et c'est une sainte qui est morte en 2016 et à 33 ans. Donc, elle est toute récente. Elle était née en 81, quelque chose comme ça. Il faudrait vérifier. Je suis nulle en maths, mais elle est tout à fait récente. Elle est irlandaise, elle est religieuse. Et elle a une vie très, un peu à la Charles de Foucault, Saint-Augustin, tout ça, très, très youplalou au début. Et puis, elle rencontre le Christ lors d'une sorte de quiproquo où une de ses copines est malade, lui cède sa place à un pèlerinage. Elle croit que c'est un voyage festif en Espagne. Elle y va pour aller en discothèque toute la nuit et elle se découvre dans un pèlerinage.
Trois Elsa, mais non.
Incroyable. Donc, c'est très drôle. Et elle rencontre le Christ qui lui tombe dessus. Et elle est très impressionnante parce que donc elle devient religieuse. Et elle dit tout le temps aux petits-enfants, il y a beaucoup de vidéos d'elle, parce que je pense que c'est une communauté où on devait beaucoup filmer, donc il y a beaucoup elle en direct, c'est assez émouvant.
Ah ouais, d'accord.
Et dans le documentaire, on la voit très souvent parler aux enfants, et elle leur dit « Évitez le péché !» Et elle dit « J'étais moi-même toute ma jeunesse en état de péché mortel, évitez le péché !» Et donc je me dis, peut-être quand même, c'est ce qu'on doit dire. Il y a un « Éviter le péché comme un danger, comme un lieu où on se blesse, comme un lieu où on s'abîme. »
On se sépare d'ailleurs.
On se sépare, et je me dis, il y a peut-être quelque chose auquel on doit renoncer, c'est l'orgueil. Ça, l'orgueil, on ne pourra pas rentrer. Quoi. Dans le royaume des cieux, il n'y aura pas de place pour la haine, la calomnie, la violence, la jalousie. Il n'y aura pas de place pour ça. Peut-être c'est pour ça que Jésus dit que la porte est si étroite, c'est qu'il n'y aura pas de place pour tous.
La fameuse porte étroite, oui. Alors voilà, j'ai retrouvé mon petit passage depuis le début de l'émission, pardonnez-moi. Voilà ce qu'invitait le pape il y a quelques... Alors je crois que c'est ça, un an hein, précisément, lors d'une catéchèse à l'époque de la... à l'occasion de la Toussaint, il me semble bien. Le pape François qui préconise... 5 expressions spirituelles, en parlant de la sainteté, hein, indispensables à pratiquer en vue de progresser sur la voie de la sainteté. Donc, il y a l'endurance, on en a un peu parlé tout à l'heure avec la persévérance, la patience et la douceur face, dit-il, à l'anxiété nerveuse et violente qui nous disperse. La joie et le sens de l'humour, là on le reconnaît bien, face à la négativité et la tristesse. L'audace et la ferveur face à l'assédie commode et consumériste. Là, il y a beaucoup de choses là-dedans. Hein. La sanctification vécue en communauté et en prière constante face à l'individualisme et aux nombreuses formes de spiritualité sans rencontre avec Dieu qui règne dans le marché religieux actuel. Bref, il y a beaucoup de choses, mais il ne parle pas de péché précisément. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il s'adapte un petit peu, parce que le péché aujourd'hui, c'est compliqué. À une époque où en plus, on psychologise tout, on explique tout, même les plus grands crimes. Oui, mais il a souffert, etc. Donc le péché, ça nous, je trouve que c'est parfois compliqué à le définir. Et là, déjà, si on apprend, par exemple, à faire face à l'espèce d'angoisse, vous disiez de moi tout à l'heure, le règne du moi, c'est quand même aujourd'hui, on est d'accord, mesdames. Hein. Et en fait, peut-être que voilà, face à l'anxiété nerveuse et violente, c'est l'anxiété aussi de la peur de perdre le contrôle, de perdre le pouvoir. Tant qu'on fait ça, on ne renonce pas. Et donc, renoncer à tout ça, c'est lâcher, en fait, faire confiance à Dieu. C'est peut-être ça la sainteté d'aujourd'hui. Je ne sais pas. Est-ce que la définition, vous voyez, au fond, change au fur et à mesure des années, ce qu'on a vécu avec les martyrs du Moyen-Âge, enfin, des siècles précédents. Puis voilà, il y a moins de martyrs aujourd'hui, me semble-t-il.
La vision qu'on en a, je pense, effectivement, évolue. Encore une fois, il ne s'agit pas de recopier à l'identique ce qu'ont vécu les martyrs et chaque saint.
Rouler dans les ronces.
Finalement, exactement, oui. Les saints ne sont pas des gens parfaits. Donc tout ce qu'ils ont fait n'est pas forcément saint.
Ouais.
Mais ça ne les empêche pas d'être saints. Parce qu'à un moment donné...
Difficile à comprendre ça.
Oui, c'est difficile. Et discerner la part des choses n'est pas toujours évidente. À partir de quand ils sont saints? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont saints? Est-ce qu'ils l'ont été toute leur vie? Est-ce que c'est au moment de la conversion? Est-ce que c'est au moment où ils ont... où on peut dire ils ont tenu jusque-là? Enfin, c'est très ouvert, c'est très varié. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus chercher à appliquer comme un copier-coller ce qu'ils ont vécu. Par contre, ce qu'il y a en commun, c'est à la fois une attraction vers le regard de Jésus, comme on le disait tout à l'heure, une persévérance et puis un fruit aussi qui confirme finalement ce qu'ils ont vécu. C'est pour ça que j'aime beaucoup le texte que vous venez de citer du pape François, parce que dedans, il cite beaucoup des fruits de l'Esprit-Saint. Ce qui me
Quel
parle
coquin.
Évidemment beaucoup. Et en fait, ces fruits sont des fruits. Donc comme la sainteté, on ne peut pas tirer sur le fruit pour le faire pousser. Et ça, je pense que c'est aussi une façon de se rassurer sur son chemin de sainteté, c'est qu'il s'agit avant tout, moi je dirais, au cœur du cœur, c'est ce qui est en lien, je pense, avec chaque saint, c'est cet élan du cœur et ce désir de Dieu. À partir de là, plus on nourrit ce désir, plus on va se disposer à la grâce de Dieu, plus à un moment donné, il va y avoir un peu une sorte de naturel, où on va se détacher effectivement du péché qu'il faut chercher à retirer de notre vie, mais on ne peut pas y arriver tout seul.
Ouais.
On y arrive parce qu'on reçoit le sacrement de réconciliation, parce qu'on goûte au sacrement, parce qu'on
muscle,
reçoit la grâce.
L'exercice à la sainteté, c'est la voie de la sainteté, c'est une sorte de...
Alors si on parle d'endurance... muscle, parlons de celui du cœur. Voilà, pas des autres. Les autres, c'est un fruit. Le muscle du cœur, oui. Aimer plus, se laisser aimer, et petit à petit, le reste va être donné comme un fruit. Ça, je crois que c'est vraiment le centre. On ne peut pas y aller à la force, ce n'est pas du sport. Ce n'est pas en suivant une routine hyper dure où j'ai envie de dire, on fait des efforts, on s'en rajoute des efforts, qu'on porte déjà des croix tout suffisamment pénibles. Il ne s'agit pas de s'en rajouter, mais de les orienter, de les offrir, de les vivre avec Jésus. Ça, déjà, c'est vraiment, je pense, la chose la plus sûre. Même les toutes petites choses.
Vous voyez que quand Kierkegaard parle du le fait de se noyer dans le désespoir du péché, c'est-à-dire que, en fait, on finit tellement par se répandre, quoi. On se noie, on est dépassé par cet océan de péché. Automatiquement, en tout cas humainement, on peut souvent le réflexe, c'est de s'y complaire, quoi, tout simplement. De toute façon, j'y arriverai jamais. Et là, on est à la frontière entre la pathologie, la psychologie, et puis l'effort spirituel, quoi, le combat spirituel, peut-être. Mais Paul, là, on a atteint des trucs pas possibles. Ouais.
Pour dire juste un petit mot par rapport à ce que vous disiez par rapport au péché, je crois que ce qui engage aussi, c'est la liberté. C'est aussi le.
On l'a toujours, la liberté.
Ouais. Mais c'est ça, en fait. Le péché, c'est à un moment donné, on choisit la vie ou on choisit la mort.
Elle l'a dit, Paul, cette fois.
Oui,
Paul.
Je crois que pour cette notion de péché, il faut revenir au père du désert.
Ah, j'aime beaucoup.
Et les pères du désert, c'était les ancêtres de Freud, pratiquement. Ouais. Ils disaient qu'il faut lutter contre. Alors, c'était le péché, mais le péché, c'était les logismes. Et les logismes, c'était les petits satans intérieurs. Alors, ça peut être l'orgueil, ça peut être l'envie, ça peut être la sédie, ça peut être la paresse, ça peut être beaucoup de choses qui nous empêchent finalement de devenir soi-même. Parce que le péché, étymologiquement, ça veut dire la mauvaise orientation. Ça veut dire manquer la cible.
Manquer la cible,
Manquer la cible, ça veut dire qu'on n'est pas sur le bon chemin, qu'on n'est plus bien orienté. Il faut se réorienter. Et le chemin de sainteté, c'est se réorienter, c'est choisir la vie. Ce n'est pas toujours facile de choisir la vie parce que c'est un chemin de dépouillement. Vous qui êtes une adepte de Thérèse de Lisieux, Thérèse de Lisieux, sa sœur Céline lui dit un jour « Quand je pense de tout ce que j'ai à acquérir pour être une sainte », et Thérèse lui dit « à perdre ». Parce que plus on se dépouille, plus on enlève le vieil homme, magnifique. Comme dit saint Paul, il faut se débarrasser de nos peaux. Mais c'est difficile de se débarrasser de nos peaux parce que des fois, c'est très confortable.
Oui.
C'est l'habitude, c'est les pulsions, c'est le « oh ben j'y ai droit ». C'est comme les publicités, je le vaux bien. Ouais. Ben non. Si on se vide de soi-même, alors on est rempli d'autre chose. Ça, c'est Jean de la Croix. Il faut se vider de soi-même pour être rempli de Dieu. Et c'est difficile, c'est un chemin rigoureux, mais c'est un chemin de grâce aussi.
Ouais. Hein, Bénédicte, ça vous inspire quoi
penser,
tout ça?
Ça me fait penser à une phrase de Charles de Foucault que j'aime beaucoup. Il dit à un moment, plus je me suis appauvrie, plus j'ai trouvé le bonheur.
Ça me plaît bien, ça.
Je pense à ça en vous entendant, Paul, parce qu'on voit, on voit bien que c'est un... Plus j'ai trouvé le bonheur, il dit pas c'était horrible.
Oui,
il dit finalement, c'est ces vieilles peaux dont vous parliez, c'est ça qui a fait jaillir en moi la joie. Ça, je trouve ça assez beau. Mais je me dis, en réfléchissant à ce que c'est que le péché, quand on entendait au début, vous avez cité une phrase du pape François, au fond, il y a quand même ce qu'on appelle le péché, on pourrait dire, c'est ce qui abîme l'amour. C'est ce qui caricature l'amour, c'est ce qui fait que l'amour devient une parodie d'amour, un masque grimaçant. Et en soi, c'est plutôt très, très libérant de se dire que si on arrive à enlever la jalousie en moi, y aura un amour pur. Si j'arrive à me débarrasser de la haine ou du pardon que j'ai pas envie de donner ou que Jésus me donne cette grâce, au fond, j'arrive à ce que c'est que le véritable amour. Je pense que l'histoire du péché, c'est juste de dire qu'il existe un véritable amour. Il est possible que l'être humain aime d'un véritable amour. Et en fait, on peut le voir d'un côté négatif, mais on peut aussi voir d'un côté extraordinaire espérance de dire l'homme est capable d'un véritable amour. Voilà pourquoi il peut lutter contre le péché, qui n'est pas une fatalité, en fait. Il peut se débarrasser de ces petits démons que vous avez décrits pour aimer d'un véritable amour. Moi, je trouve que c'est en fait un puissant message d'espérance.
Même s'il y a des... Effectivement, je pense que le catharisme... Enfin, il faut faire attention à ne pas jouer les parfaits et à pas... Je ne pense pas que ça existe quand même. Même saint Paul faisait des tas de péchés. Enfin, de toute façon, c'est comme ça. On est comme ça. Donc, on est paradoxaux, on est contradictoires et on se dépasse ainsi, d'ailleurs, en passant de l'un à l'autre, quoi, d'un état à un autre, de pêcheur à saint, évidemment. Oui. Voilà, on, en tout cas, on est là pour progresser. On
semble dans cette question. C'est peut-être là où on revient sur votre question de l'héroïsme, où l'héroïsme de l'amour, c'est pas le chevalier blanc ou le cathare. Ouais. C'est pas ça l'héroïsme de l'amour. Et l'Église a jamais dit que c'était ça. C'est Carlo Acutis, le plus petit d'entre nous, qui veut de nous comme le plus grand. C'est vraiment ça, Carlo comme la petite Thérèse. Ils sont comme les petits enfants de l'Évangile, on les met au milieu et on dit, regardez, c'est eux les plus grands. Ils ont les mains vides, ils sont les plus petits et ils sont les plus grands.
Bah, cela montré, le lion de Judas, dans l'Apocalypse, on attend le vainqueur, celui qui va ouvrir le livre, qui va être le Messie sauveur. C'est un agneau égorgé qui apparaît. Ouais. Et cet agneau égorgé, il se donne, tout son sang, il donne toute sa vie pour la vie des autres. Donc il y a cette notion de sacrifice,
on le veuille ou non,
sacré.
Et de petitesse de l'agneau doux et humble aussi.
Oui. Ouais.
When the saints, tout simplement. Bah, voilà, finalement, autant être simple aujourd'hui, la simplicité, le dessaisissement. Gospel Voices, à tout de suite.
En quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
Bien jolie version en effet, voilà, hommage aux saints dont nous parlait When the Saints aujourd'hui sur Radio Notre-Dame et RCF. À quoi faut-il renoncer pour être un saint? À beaucoup de choses, au pot. J'aime bien ce terme de pot, on disait vraiment ça à l'époque, hein. Les pots, se débarrasser des pots.
C'est
marrant
pense pas.
Ce terme. Ah, c'est vous
je pense
ça.
Que
c'est très poétique.
Mais oui,
j'aime
parce qu'il y a une sorte de dépouillement. Et puis, il faut se débarrasser en fait de sa tunique de peau. Alors ça, c'est dans la Genèse. Pour laisser apparaître l'esprit, c'est ouais. Jésus au mont Tabor. Hein. On ne voit plus le corps.
Vous devriez écrire un livre sur l'habit.
Oui.
Non.
Bonne idée. Bonne idée.
Ça m'est venu comme ça, Paul Amblard, toujours passionnante historienne de l'art, spécialiste dans l'iconographie du Moyen-Âge et de la symbolique chrétienne. Je rappelle votre livre, évidemment, le dernier, hein, bien sûr, consacré à Notre-Dame de Paris, le symbole des pierres chez Salvator. Voilà, prénom Marlène est également avec nous, les neuf fruits de l'Esprit Saint, Paul mentionné aux éditions de l'Emmanuel, et puis Thérèse de Lisieux et vous, aux éditions Marie de Nazareth, et enfin Bénédicte de Lélis, qui est passionnée par la sainteté et par les saints, mais elle, en vue de les transmettre le plus agréablement possible et le plus ludiquement possible à nos plus jeunes tête blonde, si je peux dire, donc aux petits entre 0 et 10 ans, et puis aux ados aussi, avec d'autres ouvrages. Donc Les Témoins de l'Invisible, hein, petite série, si je peux dire, consacrée à quelques saints. Alors, on peut donc citer, effectivement, il n'y en a pas non plus 10 000 hein, pour l'instant.
Il y a d'autres auteurs, plein de gens contribuent à cette, plein d'auteurs contribuent à cette collection. Voilà, moi, j'ai écrit Mère Teresa, Thérèse, Carlo, et Claire de Castelbajac. Voilà. Mais beaucoup de saints sont représentés par plein d'auteurs différents. C'est ça, je pense, la richesse de la collection.
Un joli cadeau à faire, justement, pour les confirmations.
Et oui, la profession hein, de foi.
Profession de foi, etc.
On entend les catéchumènes, ça c'est un chouette. Parce qu'en fait, moi, je suis responsable d'aumônerie. Et dans une aumônerie assez populaire, où les jeunes n'ont pas du tout des parents pratiquants et n'ont jamais entendu parler des saints. Et je ne pouvais pas leur offrir des graines de saints, parce qu'ils ont vraiment passé l'âge. Et donc, du coup, c'est pour eux que j'ai écrit ça, parce qu'ils n'avaient jamais entendu parler de Thérèse de l'Enfant Jésus. Je ne pouvais pas leur coller l'histoire d'une âme, parce que vraiment, c'est un pas trop,
trop difficile.
Trop haut. Ouais. Une biographie du père Gaucher, là, il s'appelait comme ça. C'est aussi trop haut en marche. Et en même temps, ils n'en avaient jamais entendu parler. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit pour eux, d'abord Thérèse, Claire, parce que Claire, elle est assez belle pour les jeunes.
Pour initier la première rencontre.
Voilà, exactement. Mais surtout parce que quand dans les familles, on n'a jamais entendu parler de Thérèse, c'est quand même sympa de pouvoir faire sa connaissance. Et Mère Teresa, que je trouve très édifiante pour notre thème aussi, renoncer à tout, hein, parce qu'elle a vraiment renoncé à tout.
Tout à l'heure en écoutant Paul.
Et peut-être qu'on ne l'a pas dit, mais son moteur, c'était l'amour de Jésus, mais l'amour d'autrui aussi.
Cette soif du
salut des autres. Ouais. Et je pense que c'est ça aussi qui a été son moteur. On a parlé tout à l'heure de son second appel où elle avait dû quitter son habit, sa sécurité du couvent, pour aller dormir dans la rue. Enfin, en fait, quand on prend du recul, c'est vraiment difficile. À 39 ans ou 37, 37 ans. En supportant le regard des autres, mettant ce sari qui était un habit quotidien et perdant la sécurité des bâtiments, tout, pour aller vivre auprès des pauvres et des plus pauvres des pauvres. Mais je pense que ce qui l'a motivé, c'est l'amour de Jésus, son appel très 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 fort, et l'amour d'autrui, l'amour des plus pauvres des pauvres, et le désir de leur salut, la soif de leur salut qui l'a tenaillé jusqu'à la fin de sa vie.
Et pour le coup, elle, qui était quand même sujette à des contradictions, à des déserts hein, d'ailleurs de la foi. Moi, ce que j'aime bien, c'est de voir un petit peu les ténèbres, les ombres et les lumières à travers les récits. Alors, les hagiographies, on avait du mal à le percevoir. Aujourd'hui, c'est plus nuancé, c'est plus agréable, je trouve, les vies de Saint-Joël. Et merci, Bénédicte, d'ailleurs, de le faire.
Sinon, c'est décourageant, en réalité. Voilà. Ouais,
et même Saint-François, je le trouve vraiment intéressant pour ça. C'est celui que je connais peut-être le mieux dans vos différents grains de saints. Mais c'est vrai que c'est intéressant de les représenter, Charles de Foucault aussi, représenter comme cela, de façon
proche,
nuancée, donc proche, en fait. Parce que,
paradoxal. Ce qui est difficile, c'est quand on regarde les gens de l'extérieur, mais de manière générale dans notre vie. On les voit non pas avec leur peau enlevée, mais on leur voit avec tous leurs beaux masques et ça nous met loin. Ce qui est beau dans les saints, c'est quand on lit leurs propres écrits. Parce que là, on entre dans ce que eux éprouvaient, ce qui était quelquefois la nuit, la solitude,
le désarroi. Thérèse aussi en a fait des désarrois.
Thérèse, elle a eu une fin de vie assez terrible. Où elle avait même peur, elle n'osait même pas dire à sa mère supérieure quelles étaient ses pensées, parce qu'elle avait peur de blasphémer. Mais elle a tenu dans une foi qui est peut-être la foi la plus pure, au sens où elle ne dépend plus d'aucun ressenti. Ça ne veut pas dire que c'est une nuit où elle ne croit plus. Simplement, c'est une foi aveugle, comme a connu aussi Jean de la Croix, qui était enfermé dans son cachot par ses frères quand même. Voilà, avec plein d'autres saints qui traversent à un moment donné cette foi qui est choisie et qui finalement éclaire sans éclairer. Ça, c'est vraiment un grand mystère.
C'est dingue.
Mais finalement,
c'est hallucinant, c'est surnaturel en tout cas.
Je crois que Thérèse de Lisieux est Jésus se cache. Oui. Mais moi, je suis là.
Je me cache avec lui, quoi.
je suis là et je veille. Et voilà, c'est la traversée de la nuit. Mais il résiste. Ils sont appuyés et pourtant sans appui.
Ça demande, c'est un travail d'acrobate, enfin d'acrobate, même pas ça, de funambule presque. C'est-à-dire qu'on se, faut se jeter dans le vide d'une certaine façon, faut renoncer à la sécurité.
On
l'a pas dit ce mot. On renonce à la sécurité, comme l'a fait Mère Teresa ou Bénédicte, pour être un saint. Bonjour, il faut renoncer à ça, à la sécurité.
Moi, je dirais que c'est un fruit à un moment donné.
Ça découle du reste.
On ne peut pas se jeter dans le vide comme ça, en fait. On ne peut pas se détacher.
Pas renoncer comme ça du tout.
C'est parce qu'on est appelé ou qu'on s'attache à autre chose qui fait qu'à un moment donné, on se détache. on change, comme on disait tout à l'heure, c'est une réorientation à tous les niveaux, que ce soit au niveau du péché, que ce soit au niveau de la liberté, de l'amour.
Et il peut y avoir des allers-retours, hein. C'est-à-dire
oui,
des,
bien
tout
sûr,
à coup des soifs de se remettre des pots.
Oui, oui. Exactement, comme dans le château intérieur de Thérèse de Villa, elle décrit toutes ces étapes, ces 7 demeures, elle dit qu'il faut en avoir plus, qu'on fait des allers-retours dans les demeures. On peut être dans l'enceinte du château, se laisser avoir par des distractions, et puis à un moment donné, revenir plus loin dans le château et retrouver une présence du Christ où on revient à la source.
Ouais.
Encore une fois, la sainteté, ce n'est pas la perfection. Donc, je crois que le plus
c'est
grand...
C'est un orient, quoi.
Oui, oui, oui.
Et puis, nous sommes corporels. Oui. Donc, il y a des réflexes du corps.
Oui. On a faim tous les jours, je vous rappelle.
Voilà, exactement. Et puis, il y a des réflexes de prendre
de
les choses, de consommer les choses, alors que le saint fait attention. C'est, en fait, être saint, c'est une pleine conscience. Vous voyez, on rejoint un peu les zones bouddhistes, là, mais voilà, c'est ce terrain-là, d'avoir totalement conscience de la vie qui est là, de cet esprit qui est là, c'est un chemin de conscience et de communion. On n'est plus dans la consommation, on est là dans la communion avec la vie, on est dans la communion avec l'autre, on est dans la communion et du coup, le corps devient de plus en plus translucide, transparent. D'ailleurs, Saint Séraphin de Sarov, devant un disciple, le disciple demande à Saint Séraphin, « Fais-moi voir la sainteté. » Alors, le saint ne dit rien. Et le disciple lui dit, « Mais tu es tout lumineux. » Mais en fait, il le voyait tel qu'il était. Et Saint Séraphin avait permis à son disciple de le voir tel qu'il est. Et tel que nous sommes tous, d'ailleurs.
Oui. On a tous cette possibilité.
Bah, évidemment, mais pour ça, il faut enlever les habits.
Moi, j'aurais envie d'ajouter que dans les périodes de crise dont on a parlé de certains saints, ce qui les a aidés, c'est quelqu'un d'autre. François d'Assise, Claire l'a énormément aidé. Mère Teresa, c'est un prêtre, plusieurs prêtres, mais un prêtre qui a enfin pu mettre un... Enfin, pu la rassurer, en fait. Elle avait peur que ce soit sa faute, cette nuit. En fait, c'est ça qui est difficile aussi. Thérèse, c'est de pouvoir en parler. Enfin, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre que soi-même qui nous aide à voir la lumière là où on ne voit plus nous-mêmes la lumière. Et il me semble que la sainteté, c'est un chemin à plusieurs qui nous fait quitter l'individualisme, là, comme disait le pape François, pour un chemin de communion. Mais on est saints les uns avec les autres, les uns par les autres. En fait, c'est quelqu'un d'autre qui m'aide, qui met une lumière là où moi, j'en vois plus, qui me dit une parole là où moi, je ne me rends pas
autres,
compte. Mais je pense que on s'appuie les uns sur les autres quand même dans la sainteté. En tout cas, dans le Mère Teresa, c'est assez beau. Ce prêtre, à un moment, lui dit « Mais vous avez voulu partager la pauvreté des plus pauvres des pauvres. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a de plus pauvre que quelqu'un d'athée qui n'a pas Dieu ?» Et donc, d'être dans la nuit, ça vous fait partager la pauvreté des plus pauvres des pauvres, ceux qui n'ont même pas Dieu.
Oui, c'est ce que dit Thérèse de Lisieux aussi.
Elle s'assoit à la table des pécheurs. Et je pense que peu à peu, ils réalisent qu'en fait, ils sont en communion avec les gens dans les ténèbres autour et que c'est une manière pour eux d'être en communion. Mais ça, c'est pas eux tout seuls qui ont trouvé. C'est quelqu'un qui leur apporte une lumière. En tout cas, chez Mère Teresa, chez Thérèse, elle le trouve toute seule.
Oui, c'est quelque
on a
chose
l'impression qu'elle le trouve plus toute seule. Hein.
Après, il y a aussi une.
On ne sait pas tout. Hein.
Il y a sa communauté, ses frères, ses sœurs.
Il y a
quand même une communion de prière aussi qui aide la vie communautaire.
Et des conversations, et des à travers tout ça.
Oui.
Je trouve qu'on le voit dans notre propre vie, non ? C'est une parole de quelqu'un d'autre.
C'est vrai.
Et on s'appuie les uns sur les autres.
C'est bien vrai, ça. Alors, parce qu'en plus, vous voyez, il en rajoute une couche, le pape François, pardon.
Le père François.
Pas le père François, le père François. Vous voyez, je suis à fond dans Saint-François. Il dit, cette nécessité impérieuse s'avère plus que jamais urgente dans un monde qui nous soumet, surtout les jeunes, à un zapping constant. Bon, ça, c'est évidemment une donnée évidente. Au risque de faire de nous des marionnettes à la merci des tendances du moment. Mais attention, le discernement suppose, dit-il, de laisser parler le Seigneur, de renoncer à son propre point de vue partiel et de s'éduquer à la patience de Dieu et à ses temps qui ne sont jamais les nôtres. C'est subtil, hein, parce qu'il y a à la fois des choses très simples, des choses un peu plus subtiles, toujours chez le pape François. Mais effectivement, c'est peut-être le renoncement d'aujourd'hui. C'est terriblement difficile de renoncer. Alors déjà, renoncer aux réseaux sociaux, renoncer à son smartphone déjà pendant une journée, c'est déjà un fait. Mais renoncer à être une marionnette à la merci des tendances du moment, il a tout compris, quoi. Mmh. Ouais, il a compris beaucoup de choses, en tout cas. Mmh. Ouais, bah, Carlo, d'ailleurs, Carlo pour ça, nous, enfin, en tout cas, il est de notre époque. Il en a été, voilà, il en a fait plutôt bon usage, effectivement, de ce côté-là. Et peut-être qu'il y en aura d'autres, j'espère, des futurs graines de sein, Bénédicte. Vous les attendez au tournant. les bébés seins, quoi. Voilà. Non, mais c'est vrai. Mais je ne sais pas si ça aurait parlé à. au sein de enfin aux chrétiens, aux fidèles chrétiens du 19e siècle, où voilà, c'est Paul Emblard, c'est vrai que c'est particulier. Le pape François s'adresse vraiment à son peuple d'aujourd'hui, quoi. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'on l'aime tant d'ailleurs, ce pape qui est étrange, mais en même temps, c'est très exigeant ce qu'il raconte. Que de ne pas être une marionnette du... Voilà, bah, c'est facile à dire, mais...
Oui, mais encore une fois, ouais. La perfection, le chemin de perfection, ouais. c'est pas pour être parfait. On chemine vers la perfection, mais on n'est jamais parfait. Même les saints ne sont pas parfaits. Mais on chemine vers la perfection. Et ben, je vois dans ce que dit le pape, justement, une attention aux choses, une mise à distance sur l'urgence, là, qu'on nous impose à chaque fois, parce que quand on est soumis à tant d'informations, qu'on est constamment sous pression d'une urgence, de répondre à tel
mais
mail.
Mais ça, la sainteté, elle n'aime pas ça, quoi. C'est difficile d'être saint là-dedans, effectivement.
Ouais. Justement, il faut prendre un temps, je pense. On peut vivre, on est dans ce monde moderne, donc
il faut l'assumer.
Ouais. Mais il faut aussi prendre un temps d'assise, un temps de vide pour laisser parler autre chose, une autre voix. C'est une situation de survie de prendre ce temps gratuit chacun, chaque jour, un temps de prière.
Ouais. D'ailleurs, à sa conclusion, ça rejoint ce que vous dites. Il dit « Ainsi, nous partagerons un bonheur que le monde ne pourra nous enlever. » Donc c'est ça. Si on n'a pas compris ça, effectivement, ça donne des ailes. On a envie de signer pour la sainteté.
C'est peut-être la joie d'être avec Jésus, ça. Et en effet, qu'on soit en prison, dans une cave, dans une chambre d'hôpital, sous chimio, personne ne peut nous arracher la joie d'être avec Jésus.
Ouais, exact. Bah écoutez, c'est beau de l'avoir dit en conclusion. D'ailleurs, vous embrasse, hein, toutes les personnes qui nous écoutaient horizontalement, si je puis dire. Hein. Voilà, quand on souffre, quand on est dans la souffrance, même physique ou morale ou psychologique, il est bon de se le rappeler. Merci Bénédicte de l'avoir précisé. Eh bien, je vous remercie, mesdames.
Merci
Marlène. Marlène, et on le rappelle quand même votre tournée, hein, autour de Découvre-toi, oui. Autour de la découverte de toi-même,
de Jésus
d'ailleurs, avec Jésus, Découvre-toi, ouais, avec Jésus. Les 9 fruits de l'Esprit Saint à l'Emmanuel, et puis Thérèse de Lisieux et vous chez Marie Nazareth. Merci Paul Emblard, et toujours votre livre consacré, cet hommage à Notre-Dame de Paris. Sous le symbole des pierres, à travers le symbole des pierres chez Salvator, et puis Bénédicte de Lélis et toutes ces graines de saints et les témoins de l'invisible chez l'Emmanuel, pour découvrir tous les saints d'une autre façon, de façon beaucoup plus, alors je dis moderne, non, mais de façon plus incarnée, on va dire ça comme ça. Merci mesdames.
Merci.